Je ne crois pas qu'on soit alcoolique en France.
Chronique. Là, il y a toujours une bonne bouteille sur la table, ça c'est évident.
Revue de presse.
C'est pas pour ça qu'on est alcoolique.
Invité du jour.
Et puis, la bière, ce n'est pas mauvais pour la santé.
C'est tout de suite dans la Happy Hour.
Happy Hour. Happy Hour.
Bonjour à toutes et à tous, Happy Hour qui se met à l'heure d'été, l'hiver enfin oxy, qu'on s'est dit qu'il était temps de faire un focus sur l'Occitan, d'autant qu'il n'y a pas si longtemps s'est tenue partout en région la première semaine des langues régionales, c'était fin mars, baptisée Parlem. Cette semaine s'inscrit dans le cadre d'un plan régional intitulé Parlem una cultura viva, je ne pense pas que la traduction soit nécessaire. Il a été adopté ce plan en décembre 2022 et acté pour 6 ans. Il vise à valoriser les langues régionales, non seulement de l'occitan, mais aussi du catalan, et ce au nom de leur statut de trésor national, un statut qui a été reconnu par la loi Molac en 2021, et partant aussi de ce constat que les locuteurs de ces langues régionales sont de moins en moins nombreux. En Lozère, ces locuteurs de l'occitan semblent en tout cas plus inoxydables qu'ailleurs, puisque la Lozère fait partie des départements de la région qui en compte le plus, 22%, c'est la moyenne, alors que la moyenne régionale est de 7%. C'est le résultat d'une enquête qui a été réalisée en 2020 par l'Office public de la langue occitane. C'est les derniers chiffres que j'ai trouvés. Une langue de l'occitan qui se perpétue par tradition familiale en partie et aussi en partie par d'autres qui se sont voués à sa cause, que ce soit à travers leur métier, en l'occurrence d'enseignants, ou au travers de leur association. C'est le cas de nos quatre invités. Joël Rossignol, Roland Chabanon, David Chambon, Timothée Demoury. Bonjour à tous les quatre.
Bonjour à tous.
Bonjour.
Joël Rossignol, vous êtes ici en tant que conseillère pédagogique en langue et culture régionale de l'éducation nationale pour le département de la Lozère. Mais on peut aussi préciser que vous faites partie de l'association ADOC. Bonjour à vous.
Bonjour à toutes et à tous.
Voilà, un peu d'occitan, c'est parti. David Chambon, vous êtes justement coprésident de la même association ADOC. Donc on précise ADOC pour Association pour le développement de l'occitan. Bonjour encore.
Ezaco, Adicias.
Roland Chabanon, vous êtes quant à vous président de l'association Espoir Hoc, basée à Marvejols, et on précise que vous enseignez aussi l'occitan à Marvejols, et ce depuis plus de 50 ans maintenant, c'est bien ça?
Ezaco, et bonjour à toutes.
Et enfin, Timothée Demoury, vous êtes quant à vous membre actif de l'association Tête de Bloc, avec laquelle vous organisez entre autres le festival régional dédié à la langue occitane, le Total Festum. Ce sera la quatrième fois cette année. Merci à vous d'être ici.
Adieu.
Et puis enfin, laissez-moi vous présenter celui qui, à défaut peut-être de ne pas maîtriser tout à fait l'occitan, n'a en tout cas pas la langue dans sa poche. Salut à toi, Eric.
Bonjour les gens.
Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quelque chose qui ne parle pas beaucoup aux gens, justement.
Non, je vais parler du printemps.
Ah, bah si, ça parle, en fait. Je le disais en introduction, la Lozère fait partie des départements qui comptent le plus de locuteurs. Donc locuteurs, c'est à la fois les gens qui comprennent et peuvent parler la langue. Le plus de locuteurs d'occitan dans la région, 22%. Et c'est un taux qui monte jusqu'à 72% si on englobe les personnes qui comprennent juste l'occitan sans maîtriser totalement la langue à l'oral. C'est le taux le plus élevé de la région. Alors première question qui s'adresse à tous, comment vous pouvez expliquer qu'en Lozère, ça résiste plus qu'ailleurs, cette langue occitane?
Je pense que c'est un département essentiellement rural et que la langue occitane a été perpétuée essentiellement dans la ruralité, pareil que les traditions régionales. C'est mon avis personnel.
Vous le rejoignez là-dessus, David Chambon?
Je pense aussi que la meilleure façon de la transmettre, c'est à la maison, en famille et dans les campagnes, à perdurer cette transmission familiale. Avec peut-être moins de brassage, puis peut-être un attachement plus fort.
Mmh. Oui, je pense
aussi que c'est la langue du contexte, hein, c'est la langue de notre environnement. Il y a beaucoup de toponymes, par exemple, qui ont des résonances occitanes, et du coup, on cherche à comprendre aussi. En Lozère, je pense qu'on vit dans notre environnement, on a envie de connaître notre environnement, de bien s'impliquer dans tout ce qui nous entoure, et du coup, ben, la langue est présente, et du coup, elle vit encore, effectivement, pas mal.
Un peu plus qu'ailleurs. Avant que vous-même vous en soyez les passeurs de cette langue, c'est dans la bouche de qui que vous l'avez entendue pour la première fois?
Moi, je l'ai entendue sur les genoux de ma mère.
Oui.
Par exemple, quand elle me racontait « Sous quelle planète, il y avait une olébrite ».
Voilà. Elle était bilingue, votre mère ?
Comment ?
Bilingue, elle maîtrisait l'occitan.
Elle maîtrisait très mal le français.
Ah, donc...
Elle maîtrisait parfaitement l'occitan. Mon père, c'est pareil. Mon père ne savait pas lire et écrire correctement le français, mais par contre, il maîtrisait parfaitement l'occitan. Et parfois même, c'était difficile. Par exemple, quand on allait en ville, si je peux me permettre de raconter une petite anecdote.
On est là pour ça.
J'avais amené mon père qui avait une verrue au doigt. Et quand il est arrivé chez le docteur, « Monsieur le médecin, je viens vous béire parce que j'ai une garie géodète que quand je cure l'estaple, elle me fait sanguer. Mm-hmm. » Voyez. Alors c'est vrai que... Il y a des gens qui ont tourné ça un petit peu en dérision en disant, voilà, c'est des gens qui ne parlent ni français ni occitan. C'est un dialecte qui a été parfois, souvent, méprisé.
Mm-hmm. Alors, moi, génération d'après, mais même histoire. Je suis issue d'une famille de paysans aveyronnais. Et donc, la langue de communication au quotidien, entre eux, dans la famille et avec les voisins, était l'occitan. Alors évidemment, à nous, notre génération, on nous parlait français, et que français. Mais quand on baigne dans une langue H24, ben, petit à petit, elle vient à nous, sans qu'on le veuille vraiment, elle est là, quoi. Et donc, je ne le parlais pas jusqu'à quand je suis rentrée à l'UFM, en fait, à formation, où là, le professeur d'occitan m'a dit, mais si tu l'as toujours entendu, tu la parles. Mm. Et je me suis mise à la parler, et effectivement, je l'avais en moi.
Vous aviez des facilités. Quant à vous, David Chambon.
Eh bien, peut-être ma petite histoire, c'est qu'en Cévennes, ben, c'est pareil qu'en Marcheride ou dans l'Aveyron. Pareil, avec un petit décalage de génération. Moi, c'est ma grand-mère qui me parlait en occitan. J'ai des choses très, très, très claires qu'elle m'a dit et que dans cette langue. Et sa mère, mon arrière-grand-mère que j'ai connue, elle ne parlait pas français, quoi. Donc en Cévennes gardoise là. Mmh. Et puis après je pense que c'est une question de personnalité, on est plus ou moins on est nombreux à être touchés de cette façon et on est plus ou moins à vouloir ça continuera par moi, quoi.
Mmh.
Voilà. Et donc du coup moi j'ai cherché à retrouver avec peu. J'avais pas du tout la langue dans la bouche petit, à part à répéter les petites choses qu'on me disait, mais j'ai fait un travail et qui m'a pas demandé spécialement d'énergie. J'en avais envie, quoi.
Ouais, ça résonnait dans votre tête. Timothée ouais. Demoury, est-ce que vous avez souvenir?
Alors moi je suis un peu un néo-lozérien, donc ça fait depuis, en fait j'ai vraiment découvert il y a quelques années quand je me suis installé en Margeride. De par mes voisins, en fait, les anciens du village qui citaient dans leur français l'occitan. Et puis, bien sûr, c'est en voulant un peu rétablir dans le hameau où j'habite le feu de la Saint-Jean qu'on a découvert avec l'association Tête de Bloc le dispositif Total Festune de la région. Et du coup, ça nous a ouvert sur toute une culture actuelle, contemporaine, autour de l'occitan qui nous a beaucoup intéressés.
On va en parler plus en détail. Eric, tu avais une question ?
Non, je disais, a priori, donc on voit que c'est un apprentissage oral. Donc est-ce que, pour le coup, est-ce que le local fait qu'il y a des particularités suivant justement qu'on soit dans les Cévennes, en Margeride, en Aveyron ? Ou est-ce que vraiment tous les mots sont les mêmes ou il y a des particularités ?
Alors il y a des particularités, évidemment. Mais j'allais dire comme en français. Je pense qu'on ne parle pas tout à fait le même français quand on habite Marseille ou quand on habite en Alsace. Voilà, donc au sein de l'Occitanie aussi, on a des particularités. Cela ne nous empêche pas de nous comprendre et de pouvoir parler notre langue tous ensemble. Et c'est de là qu'est né quand même l'Occitan, hein, cette volonté un peu, quand on a décidé d'enseigner cette langue, qui était en perte de vitesse, quand on a voulu l'enseigner, il a fallu la normaliser quand même pour pouvoir l'enseigner. Et du coup, cette normalisation fait que, voilà, on a des génériques, des termes un peu généraux pour tout l'Occitan, mais qui se déclinent dans les différentes régions de l'Occitanie.
Je pense que la normalisation n'empêche pas de garder, en fait, on a gardé quand même les particularités de chaque dialecte. Mmh. Et on a respecté chaque dialecte.
d'en garder les particularités spécifiques en fonction de là où on habite.
Absolument. Si vous dites un chien, s'il y en a qui disent une chi, l'autre une co, les deux sont
valables.
Tout à fait.
Est-ce que vous serez d'accord si on vous dit que ce qui vous a plu aussi dans l'occitan, c'est le fait de vouloir apprendre une langue que tout le monde ne comprenait pas aussi quoi, autour de vous? Non.
Alors non, moi je pense que la langue occitane n'est pas du tout une langue d'exclusion, au contraire. Oui. Je dirais que c'est une langue de rassemblement et que c'est un premier pas vers une autre langue que notre langue nationale française pour s'ouvrir aux autres langues, après langue romane et langue d'ailleurs. Et non, pour moi en tout cas, ça n'a jamais été dans un souci d'exclusion, absolument.
Alors pour moi, ça a été un strapontin. C'était pas la recherche première. Hein. Depuis que je suis tout petit, je cherche à retenir cette langue. Mais quand je suis arrivé à 70 km de là où je suis né, à Florac, quand je me suis mis à comprendre les gens, à leur dire des choses en occitan, ça a été des portes qui s'ouvraient. C'est de la reconnaissance...
au sein d'un territoire.
Oui, au sein d'un territoire, on se rapproche.
Toute langue est une œuvre du génie humain, hein. Ça c'est certain. Et donc la langue occitane, même si elle est pas, si elle est minoritaire, doit pas être minorée. Voilà, ouais. Ça c'est certain.
Si elle peut être absconce pour certains, je parlais pas forcément d'exclusion. Je voulais juste dire que des fois on a envie de s'approprier aussi une langue pour en faire partie d'un territoire. Et c'est peut-être ça. L'une des vocations ou une des définitions des langues régionales, c'est qu'elles sont aussi quelque part un peu des marqueurs d'identité. Vous êtes d'accord avec cette définition ?
Oui, par contre, ça, oui, effectivement. Oui. Ah. Bien sûr, comme toutes les langues, oui, bien sûr. Bien sûr, bien sûr, quand on parle la langue d'un endroit, comme tu sais tout à l'heure, on parle d'environnement, on est ancré dans notre lieu. Et oui, la langue en fait partie, la langue et la culture. Hein, on ne peut pas dissocier langue et culture. Donc, effectivement, oui, dans ce cas-là, dans cette définition-là, oui, on est d'accord.
Oui, la langue occitane n'est pas simplement une façon de communiquer, c'est une façon de voir le monde, c'est une façon d'être, hein. Ça c'est sûr. Hein.
Et une façon de nommer ce qui nous entoure, l'environnement proche, hein. Eric l'a amené avec sa question, on peut parler différemment l'occitan en fonction de là où on se trouve. Est-ce qu'il y aurait des mots qui définiraient précisément la Lozère avec l'occitan que pourrait le faire le français?
Alors j'allais dire, il y a un peu tous les mots du... toujours pareil, de l'environnement et de la culture et de ce qu'on vit. Par exemple, dans les Cévennes, il y a les bancelles, les petites terrasses sur lesquelles on cultivait. Eh bien, un bancel, tout le monde dit un bancel, je pense, dans les Cévennes.
On peut dire faïs aussi, faïs, bancel. Mais c'est vrai que ces mots-là, ils portent le territoire. Bancel, faïs, balat, CRS. C'est des choses qui sont... des copains qui sont de... d'Occitanie, qui connaissent l'Occitan, ne vont pas forcément connaître ces mots. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont chargés. Ils sont chargés en tout cas, moi, personnellement, de pas mal d'émotions, d'histoires d'enfance. Moi, j'ai un gros plaisir à les cultiver, à les transmettre aussi.
Il y a des mots que les enfants ne savent pas que ce n'est pas du français, par exemple. Quand ça pègue, tout le monde dit ça pègue. Il y a des enfants quand on leur dit mais ce n'est pas français, ça pègue. Tu ne peux pas dire ça. On le dit en occitan, qu'au pègue. Mais en français, on doit dire c'est poisseux. Voilà.
Ça colle.
Ça colle. Et voilà, ils découvrent du coup, bien souvent, par l'école aussi, qu'ils emploient des mots de francitan qu'on appelle. Ce mélange de français et d'occitan.
Éric.
Donc pour revenir un peu à la question d'avant, pardon, là vous êtes trois, donc c'est presque votre langue maternelle ou pas loin. Mais par contre, est-ce que ça a permis de mieux s'intégrer en apprenant, mieux s'intégrer justement au territoire en apprenant l'occitan après ?
Timothée de Maury, hein, ouais. Je t'adresse.
Alors moi je ne parle pas, en fait, je suis vraiment novice, donc je suis plus sur le côté culturel, on va dire. Mais c'est vrai que... Là, par exemple, on fait un travail avec l'association autour de notre prochain Total Festune, justement sur le patois de Margeride. En fait, on fait un collectage avec l'association du troisième âge qui s'appelle les Montagnards à Grand-Rieux. Et justement, on s'aperçoit vraiment, comme on disait, que tous les hameaux avaient vraiment leurs mots. C'est vraiment très différent sur des courtes distances. mais que voilà, qu'en même temps, c'est aussi, comme vous disiez, c'est une manière de se retrouver et d'en discuter. Et c'est vrai que nous, le fait, on s'aperçoit avec notre bénévole avec qui on fait ce travail de collectage, que ça nous intègre aussi, même si ce patois a tendance à disparaître pour différentes raisons. Mais oui, c'est sûr que c'est vraiment un ancrage dans le territoire, tout à fait.
Qui fédère aussi. T'as une autre question, vas-y.
Oui, non, c'est juste pour savoir justement le mot qui vient d'être utilisé.
Patois.
Le patois, ce serait vraiment le très local, et l'occitan, ce serait vraiment la langue plus générale.
J'ai fait rechercher aux élèves, sur des vieux dictionnaires, la définition du mot patois. Voilà ce que j'ai trouvé dans le Larousse. Jargon parlé par une population généralement rurale dont le niveau de culture et de civilisation est en général inférieur à la moyenne. Exemple des paysans qui parlent patois. Et dans la mentalité des gens, il faut bien faire, c'est sûr, le point sur le mot patois et le mot occitan. Voilà, ça, c'est des choses. Les gens vous disent, à la campagne, ils vous disent, je parle patois, mais si c'est l'occitan, non, etc. Donc il faut bien leur faire comprendre qu'en fait, on a besoin d'eux. Et que l'occitan est vraiment une langue.
C'est d'ailleurs par ce terme de patois qu'il a pu être un peu mis à l'écart, cet occitan, cette langue régionale comparée au français. On reviendra un peu dessus après. J'avais encore une question avant que tu nous fasses ta chronique, Eric. Aujourd'hui, la France compte une soixante-dizaine de langues régionales, il me semble. Est-ce qu'on pourrait définir l'occitan? Où est-ce qu'il est parlé? On peut le délimiter, ça, de manière précise?
Oui, il est parlé dans tout le sud de la France. Oui. Si on enlève le Pays Basque, la Catalogne, la Corse, voilà. Et puis il faut aussi dire que cette langue est co-officielle dans le Val d'Aran, qui est une région espagnole, mais la langue occitane est co-officielle, et aussi dans certaines vallées italiennes. Donc voilà, c'est tout le sud de la France qui va d'une ligne un peu de Bordeaux, ça monte jusqu'à Clermont, ça redescend après Grenoble, là, ça va dans les vallées. Dans les Alpes, voilà, dans tout le sud de la France.
Donc ça correspond au partage de Languedoc, Languedoil, à l'époque médiévale.
La limite n'est pas vraiment définie. Pas toute droite, il y a quelques régions un peu plus au nord qui parlent l'occitan et d'autres un peu plus au sud qui ne parlent pas. Voilà.
Mais c'est bon, pas une
en fait, c'est ça. Ouais, c'est pas une ligne droite.
Oui, okay. La Dordogne le parle pas mal.
Oui, c'est ça. Et puis il y a toujours la frontière n'est pas tout à fait bien définie. Hein. On parle de département,
mais sûr.
C'est
toujours. Ça fluctue. Et le nombre de locuteurs, on peut le définir en France, hein, enfin en tout cas dans le sud de la France pour le coup.
Alors du coup, ça c'est l'OPLO, hein, comme on a parlé en introduction, à l'Office public de la langue occitane, qui a été, alors un nombre, je ne sais pas, mais leur enquête donne à 7%, hein, je pense.
Bah, c'était, du coup, c'était basé que sur les deux régions, aujourd'hui Occitanie, mais les anciennes...
Et Aquitaine.
Et Aquitaine, oui, c'est vrai. Mais ce n'était pas l'ensemble du sud de la
France.
C'est une
moyenne de 7%, hein, c'est entre 2 c'est ça, et 22%, 22%. Mais on voit bien que c'est une volonté aussi quand même, parce que le Val d'Aran, qui est vraiment comme un département à côté de nos départements, ils sont à 60% de locuteurs.
Et
donc c'est quand même une volonté.
Voilà. Politique, vous voulez dire?
Voilà, peut-être.
Peut-être. Eh bien écoute Eric, on t'écoute pour ta chronique.
Donc voilà, c'est le printemps. J'aurais pu vous parler des bourgeons en fleurs, du retour du coucou, ou encore mieux, de la journée mondiale de la licorne. Vous pouvez vérifier, c'est bien aujourd'hui. Je tiens ainsi à vous informer des moments importants de la vie. Nous aurions ainsi passé 3 minutes en pleine harmonie au milieu des arcs-en-ciel. Mais Clara m'a dit « Actu, 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 on n'est pas là pour faire les poètes ». Et je vous avoue, quand je vois les dernières actualités depuis le début de l'année, eh bien, je crois que 2024 nous prépare un grand cru. Et pour accompagner un peu de vin, je vous propose une petite rondelle de saucisson, car comme dirait l'autre, la rondelle fait le printemps. Voilà, bon, Bon, pour en revenir à l'actualité, ce qui retient mon attention, mais pas suffisamment celle de Béranger qui fait l'école buissonnière, ce sont les prochaines élections européennes. Alors que ce sont des élections ô combien importantes pour notre quotidien et notre avenir. Et donc, le problème, c'est que seulement certains politiques semblent savoir comment créer de l'envie pour se faire élire. C'est bien ce qu'on peut reprocher à la gauche et à l'écologie. Pour les prochaines élections européennes, ils ne parviennent pas à imposer leur récit. Et qui dit pas de récit, dit pas assez d'intérêt. Donc les sensibilités de gauche ne savent pas vers qui se tourner. Et puis, il faut avouer qu'ils ont trouvé de vraies figures populaires pour incarner leurs idées. Ils se sont dit, tiens, et si on choisissait Marie Toussaint pour incarner l'espoir populaire de l'écologie et du socialisme ? Ça prouve quand même un peu que quand on n'a plus de carburant, on s'en fout un peu de qui on met au volant. Et je n'ai rien contre Marie Toussaint, mais je ne la vois pas en pilote de la gauche écolo aux européennes. Alors, je ne vois pas non plus Raphaël Glucksmann en apôtre d'une gauche populaire. Mais j'ai évoqué d'abord Marie Toussaint parce que j'ai découvert son nom ce matin. Bon, non, mais vraiment, on le voit bien lors de toutes les dernières élections, et donc forcément les prochaines, l'important, ce ne sont pas forcément les idées. À quoi ça sert, les idées ? Non, l'important, c'est le récit. Sinon, comment l'extrême droite serait aussi haute dans les sondages ? Du reste, parlons-en des sondages. Cela nous en apprend souvent plus sur ceux qui posent les questions que sur ceux qui y répondent. Et qui pose les questions ? Ceux qui veulent des arguments pour leur récit. Alors, la gauche propose bien des idées ô combien intéressantes, mais a oublié d'en faire un récit, de définir un cadre, de l'intérêt, des sentiments que le récit doit générer, à qui cela s'adresse, alors que l'extrême droite ne se base que sur ça, de savoir à qui il s'adresse et quelles émotions ils veulent susciter chez ces personnes-là. Après, il suffit de faire rentrer les idées dans la boîte. On va prendre l'exemple des revendications qui semblent les plus répandues actuellement. Et si on vivait mieux ? Et si on faisait payer les riches ? Et si on essayait de sauver la planète ? Et si on sauvait l'hôpital, l'école, l'agriculture ? Et si la guerre se rapproche encore plus de nos frontières ? Et si on devait choisir entre fin du mois et fin du monde ? Voilà, ça part dans tous les sens, et on voit que la gauche n'arrive pas à structurer un récit autour de ses idées. Alors que Macron, il n'a rien fait d'autre que d'utiliser la poudre de perlimpinpin pour faire un récit de tous ces sujets. Les Français voudraient moins d'impôts, moins de fonctionnaires, moins de normes et plus de liberté. Et paf, c'est son programme. Pour l'extrême droite, c'est plus simple encore. Il suffit d'évoquer les étrangers pour résoudre tous les problèmes. Voilà, les élections approchent, et je crains que la gauche, comme Béranger, n'en soit plus qu'à espérer qu'une licorne nous raconte une belle histoire pour un printemps européen.
Youpi. Merci Eric. Et bah écoute, je vais essayer de faire une transition un peu foireuse, je crois, mais tant pis, on essaye quand même. Tu as parlé de fonctionnaires, on va dériver sur l'éducation nationale. Voilà, j'en ai choqué une. Puisque pour contribuer au maintien de cette langue occitane, il y a bien sûr l'enseignement que vous représentez particulièrement, vous, Roland Chabanon, ainsi que vous, Joël Rossignol. Je me tourne d'abord vers vous, Joël Rossignol, en tant que référente conseillère pédagogique, pardon, en langue régionale auprès de l'éducation nationale pour la Lozère. Pour faire un petit état des lieux pour commencer, combien de classes aujourd'hui en Lozère enseignent l'occitan ? Et d'ailleurs, à partir de quelle classe on l'enseigne, l'occitan ?
Alors, l'occitan est enseigné comme toutes les langues, hein, à partir du CP, jusqu'au CM2. Mais effectivement, une première sensibilisation peut être faite dès la maternelle. Donc, en fait, il y a de l'enseignement de la langue de la maternelle jusqu'au CM2.
Jusqu'au CM2.
Voilà. Alors, combien de classes représente plus de... Alors, dans l'enseignement public, hein, j'ai les chiffres que pour l'enseignement public, dans l'enseignement public, ça représente plus de 45% des classes qui font de l'enseignement de l'occitan. Alors, soit en sensibilisation, soit en enseignement langue vivante, soit en bilinguisme ou enseignement renforcé de la langue occitane.
D'accord. Et l'occitan est aujourd'hui donc enseigné, hein, à l'école publique notamment, mais ça n'a pas toujours été le cas. On peut peut-être revenir un peu là-dessus. Il y a une époque où c'était même interdit, je crois, d'enseigner la langue régionale. Ça remonte à quand, ça ? Et pourquoi ?
Alors, ça remonte à l'époque de mes grands-parents, de mes parents. Hein. Ça remonte au début du XXe. Pas le droit d'enseigner la langue. Et puis, les enfants étaient même sanctionnés s'ils parlaient la langue. Je pense qu'on a un peu tous entendu parler du signal, qui était un petit objet que les enfants devaient se passer dans la classe s'ils parlaient occitan. Et à la fin de la journée, l'enfant qui portait le signal avait une punition. Donc, on s'appuie aussi sur la délation entre enfants pour interdire
la diffusion de cette langue.
Voilà, il y avait des affichages en classe, il était interdit de cracher et de parler occitan, enfin de parler patois. Enfin voilà, il y avait toute une politique, effectivement, d'éradication de la langue régionale.
Oui. Il a fallu attendre 1951, je crois, la loi d'action, pour que l'enseignement de l'occitan soit reconnu de toute façon. Là aussi, j'ai une petite anecdote. Hein. Mon père me racontait que quand il parlait patois, à l'école primaire, ils avaient des sabots ou des galoches. Le surveillant leur mettait des graviers dans les sabots, dans les galoches. Ils devaient marcher avec les sabots. Voilà. Un sabot en occitan, ça se dit esclope. Mmh. Et après, on disait que les gens étaient éclopés. Des boîtés, vous voyez, comme quoi. Voilà. Alors, il y avait le signal, évidemment. Ça pouvait être une pièce trouée. Ça pouvait être le bonnet d'âne aussi. Mmh.
pour humilier, en fait.
Ouais, humilier les enfants.
Et c'était au nom de quoi? Au nom de préserver une langue nationale unifiée, c'était ça, ouais, le prétexte.
Oui, c'est ça, c'est une langue nationale. Pardon.
Non, les
pendant la guerre de 1875, ils se sont rendus compte que les provinciaux ne comprenaient pas ce qui était demandé, les ordres qui étaient donnés, et donc il y a eu besoin d'une langue commune. Mm. Mais langue commune ne veut pas dire langue unique.
Voilà.
Tout à fait. D'ailleurs, c'est vrai que l'occitan n'a pas eu la chance d'être élu comme langue nationale parce qu'elle n'était pas parlée dans la région parisienne, hein, et que beaucoup de gens ont voulu la détruire, ça c'est sûr, sans que tout le temps la population réagisse vraiment. C'est comme si on voulait détruire le pont du Gard ou les arènes de Nîmes ou les remparts de Carcassonne parce qu'ils ne sont pas dans la région parisienne. Tout le monde lèverait les bras au ciel. Mais quand il s'agissait de la langue occitane, il y a des gens qui se défendaient, mais il y a beaucoup de populations qui ne réagissaient pas forcément. C'est ça, c'était dans la tristesse.
Et donc, il y a eu des gens comme vous qui se sont battus pour la conserver, la faire vivre, toujours cette langue. Donc, vous l'avez dit, en 1951, la loi d'Exon autorise à nouveau l'enseignement des langues régionales à titre facultatif. Outre la préservation du patrimoine, c'est quoi l'intérêt d'apprendre une langue régionale à vos yeux?
Déjà, je pense qu'apprendre une langue différente du français, c'est enrichir aussi sa propre langue française. Je crois que c'est déjà un argument qui est valable. Puis comme je disais tout à l'heure, c'est pas simplement une façon de communiquer, mais une façon de vivre, une façon de penser, une façon de se rattacher aux traditions. La modernité sans tradition est aveugle. Et les traditions sans la modernité sont stériles. Je pense que c'est important.
Alors effectivement, il y a tout cet attachement au patrimoine et à l'environnement dont on parlait tout à l'heure. Et puis, quand même, il y a des études qui ont été faites maintenant par des linguistes et des neuroscientifiques qui prouvent qu'apprendre une autre langue de façon précoce développe des aptitudes, des capacités intellectuelles intéressantes, notamment la flexibilité mentale, notamment la mémorisation la mémoire de travail à court terme. Enfin, voilà, il y a tout un tas d'aspects positifs à apprendre une langue de façon précoce. Et puis, il y a l'ouverture culturelle, l'ouverture au monde.
Moi, je l'expérimente un peu parce que je travaille en classe bilingue aussi. Et c'est étonnant de voir les enfants comparer les langues. Et ça, c'est un exercice qu'il n'y a qu'eux qui font. Il les compare dans le lexique, il les compare aussi dans la grammaire. Ah tiens, j'entends le S en occitan, ah ben c'est qu'il faut le mettre au pluriel. Là. Tiens, là, en occitan, on dit castel, alors il faut l'accent circonflexe sur le A pour château. Il y a des tas, enfin, c'est de longue, quoi. C'est de longue qu'en comparant les langues, on enrichit son français, on enrichit son occitan. Et du coup, on fait certainement plus d'exercices au niveau mental que celui qui a qu'une langue. Après, c'est quand même pas rien de comprendre le monde d'avant. Et ça passe que par là. On peut pas comprendre le monde d'avant totalement si on n'a pas une compréhension de la langue qui le portait. Et ce monde d'avant, c'est plusieurs siècles. C'est plusieurs siècles de gens du sud de la France qui parlaient une autre langue que celle qu'on parle là aujourd'hui, dans le studio. Et du coup, on a une connaissance du monde qui est particulière quand on connaît ce filtre-là. Ça me paraît très important.
Eric, tu avais une question.
Ah, c'est pour savoir, vous pensez différemment quand vous parlez en occitan et quand vous parlez en français? C'est pas la même chose pour vous? Vraiment pas.
Alors, vas-y.
Moi j'ai pas la langue maternelle. Malgré tout, quand je me mets vraiment je décide de parler occitan ou d'écrire en occitan, il se passe quelque chose, quoi. C'est pas les mêmes mots, ils portent pas la même chose. Donc je pense pas pareil. Ils portent pas du tout la même chose.
Donc vous l'avez dit, il y a un intérêt particulier pour l'orthographe, hein, avec l'étymologie des mots, on apprend à décortiquer d'où vient tel mot, et du coup ça ouvre un peu, ça permet de plus comprendre pourquoi on parle tel qu'on parle aujourd'hui. Mais quoi d'autre en fait? C'est quoi l'autre intérêt? Déroulez-nous un peu le programme, Roland Chabanon, de vous qui êtes enseignant aujourd'hui à Terre Nouvelle, je crois, à Marvejols. Qu'est-ce que vous leur enseignez? Vous passez par quoi?
Bien déjà, il y a un grand intérêt. Moi, je vois, j'ai 110 jeunes entre 16 et 19 ans qui apprennent l'occitan. C'est facultatif, mais c'est les classes entières qui viennent et qui sont intéressées. Surtout pour leur... Bon, c'est vrai que je le disais tout à l'heure, c'est un département rural. Hein, et les jeunes sont attachés à leurs racines. S'ils perdent leurs racines, ils perdent leur identité, en fait. Hein. Moi, je crois que c'est ceux qui nuit au monde moderne, à l'heure actuelle. Hein, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont perdu leurs racines ou qui ne veulent pas se souvenir. Hein, voilà. Alors, je leur dis, bien sûr, hein, il faut regarder en avant, comme sur l'autoroute, mais de temps en temps, il faut jeter un coup d'œil dans le rétroviseur. Parce que sinon, vous allez, je leur dis, voilà, vous allez vous planter, excusez-moi l'expression. Hein. Voilà. Et je crois qu'ils sont conscients de ça. Hein. Voilà.
Combien d'heures par semaine? On ne l'a pas précisé d'ailleurs, d'enseignement d'occitan. Ça doit varier en fonction des niveaux, j'imagine. Mais...
Alors, ça varie en fonction du niveau et en fonction de la modalité d'enseignement. Mmh. C'est-à-dire qu'en sensibilisation, c'est une grosse demi-heure. En langue vivante, comme c'est l'horaire de langue vivante préconisé par le ministère, hein, de l'éducation nationale, c'est une heure et demie. On fait à peu près moitié-moitié occitan, langue vivante étrangère. Donc là, c'est à peu près 45 minutes. Et après, en enseignement bilingue, c'est 12 heures semaine. Mmh. C'est-à-dire 12 heures en occitan et 12 heures en français. Donc, ce n'est pas 12 heures d'occitan, mais les enfants travaillent le mathématiques en occitan, travaillent l'art en occitan et ce bel linguistique fait qu'ils apprennent la langue. Et en enseignement renforcé, on va jusqu'à 3 heures semaine.
Roland Chabanon, je reviens vers vous. Le profil des élèves, vous disiez, c'est principalement des élèves qui ont en fait, c'est par tradition familiale qu'ils ont envie d'apprendre l'occitan. C'est principalement ça la motivation.
Oui, essentiellement, oui.
Et vous-même, donc actuellement vous êtes à la retraite, mais vous enseignez toujours, donc je crois que vous êtes quand même payé hein, dans l'histoire.
Comment?
Confirmé. Vous êtes quand même payé dans l'histoire, ou c'est bénévole?
Je fais une partie de bénévolat. Okay. En fait, je vais vous le dire, je ne fais pas beaucoup, je fais 4 heures par semaine. Moi, c'est très peu, puisque moi, je suis à la retraite.
Ouais.
Et je fais 2 heures bénévoles, et puis 2 heures qui sont payées. Pour l'instant, elles étaient payées par la région Occitanie. C'est en train d'être modifié. Alors, on va un petit peu vers l'incertitude. Ouais. Mais je vous dis, aujourd'hui, là, si demain... l'enseignement de l'occitan n'est plus financé, je continuerai bénévolement. Je ne peux pas laisser tomber mes élèves. Voilà, ceux qui ont commencé, je continuerai bénévolement à faire quelques heures d'occitan au lycée.
Et si vous avez continué à le faire à Terre Nouvelle, c'est parce qu'il manquait d'enseignants. Est-ce que ça, c'est une réalité aujourd'hui?
Voilà, c'est exactement. Pour trouver un enseignant juste pour 3 ou 4 heures, c'est difficile. En fait, j'en faisais davantage. Et puis cette année, il y a un enseignant à qui il manquait des heures. Donc je lui ai laissé céder mes heures. Vous voyez, et j'en ai gardé quelques-unes, bon, comme ça, pour garder un lien avec les jeunes.
C'est difficile de trouver des professeurs d'occitan?
Alors, c'est vrai qu'on en manque, hein. Aussi d'enseignement public. Par contre, donc, il y a une convention qui a été signée entre la région et l'État, donc en 2017 par Madame la ministre Velo d'Alcacem, et puis qui a été déclinée après au niveau académique. Donc, la rectrice a signé avec la région Occitanie une convention, et dans cette convention, il y a tout un développement de la formation. Et l'OPLO, dont on parlait tout à l'heure, l'Office public de la langue occitane, en partenariat avec l'Éducation nationale, a mis en place un système de formation qui s'appelle Enseigna. Et donc, des collègues peuvent partir un an en congé formation pour se former à l'occitan. Voilà, donc, il y a des systèmes de développement de la formation.
Et l'idée, c'est de développer une continuité, parce que là, vous disiez que ça va jusqu'au, je ne sais plus quel niveau.
Enfin, voilà, pour le premier degré de la maternelle jusqu'au CM2. Ouais. Mais effectivement, il y a aussi au collège, alors pour le moment, dans l'enseignement public, ça représente 17% des enfants, hein, des collégiens qui suivent un enseignement de l'occitan. Les motivations sont diverses. Il y a la transmission familiale, mais pas que, parce qu'il y a des enfants qui viennent d'ailleurs. Et puis au lycée, par contre, il y en a beaucoup moins. Il y a une chute des effectifs un peu au lycée pour le moment.
Ah oui.
On essaie de redynamiser tout ça.
Eric.
Non, juste pour savoir, c'est un enseignement essentiellement oral ou, ou c'est écrit aussi?
Alors c'est les deux. Ça commence par l'oral en général, puisque la langue, elle est toujours faite pour communiquer, on parle plutôt. Ça commence par l'oral et ça va vers l'écrit, bien sûr, les deux sont enseignés, l'oral et l'écrit.
Moi par contre, c'est uniquement oral, parce que bon, comme j'ai très peu les élèves, je ne peux pas me permettre, donc c'est quasiment oral tout le temps.
Qui contribue aussi à maintenir, à faire vivre cette langue occitane, c'est bien sûr la culture. Timothée Demoury, vous me voyez venir, j'imagine, puisque vous organisez donc le total. On dit festum alors, hein. Moi je dis festum.
Festum.
Festum. Festum. Bon.
Oui,
bon, allez, c'est accepté.
Normalement, oui, reste U en occitan.
Bon, bah, total festum alors.
Festum, normalement.
Thune.
Thune, avec N, ok. Donc vous organisez ce festival qui est un festival régional hein, qui a été lancé donc par la région Occitanie depuis 2006. C'est là que j'ai retrouvé la première édition. C'était fait à Montpellier et après ça s'est étendu partout en région. Vous, avec Tête de Bloc, c'est la quatrième fois que vous l'organisez. Pourquoi vous avez voulu le porter tout simplement ce festival ?
Ben voilà, comme je le disais tout à l'heure, c'était dans l'optique en fait de réintroduire le feu de la Saint-Jean dans notre hameau. Voilà, on nous a conseillé de contacter la région Occitanie qui nous a fait part de ce dispositif, donc on les a rencontrés et donc on a fait le premier dossier en 2020 et voilà, comme je le disais, on s'est un peu pris au jeu puisqu'on a découvert tout un pan voilà culturel bien vivant et vraiment très très intéressant. Et du coup, voilà, donc pour la quatrième année, on propose ce... Alors, pour nous, c'est pas un festival, hein. Enfin, c'est un temps fort, plus, autour de la culture occitane. Je sais pas si le dispositif est appelé festival, mais en tout cas, c'est... En fait, c'est une sorte de label, plus qu'autre chose, qui labellise des événements autour de la culture occitane dans toute l'Occitanie, qui a lieu de fin mai à tout début juillet. Donc, au départ, c'était vraiment autour de la culture des feux de la Saint-Jean, et puis certaines fêtes de villages bien particulières dans le sud ou autour, enfin voilà, sur toute la région Languedoc, Roussillon, Midi-Pyrénées.
C'était raviver une tradition, en fait, c'était ça le principe de base.
Et du coup, c'est devenu, c'est vrai que depuis quelques années, c'est très axé aussi sur la langue, sur tout ce qui est patrimoine immatériel, et donc c'est très très large.
Allez-y.
Moi, j'ai envie de remercier toutes ces assos là qui s'occupent de diffuser la culture. Et c'est vrai que moi, je serais pas dans ce bain-là s'il y avait pas une partie tournée vers l'avenir. On est forcément, et ça, on a insisté dessus, tournée vers le passé. Cette langue, elle porte ce qui s'est passé avant aussi, mais il faut absolument que des gens s'en emparent et continuent à créer et revisitent et réutilisent la langue et fassent des mélanges et c'est ça qui donne envie de foncer quoi.
Voilà, et que cette langue occitane ne soit pas trop taxé de désuète, parce que c'était une de mes questions, si on doit comparer l'apprentissage d'une langue régionale à une langue qu'on dit morte aujourd'hui, telle que le latin, est-ce que ça pourrait être ça la différence, en fait, que la langue régionale peut encore se renouveler, c'est-à-dire faire des néologismes avec ce qui existe aujourd'hui, ou c'est figé, en fait, comme le latin ?
Non, c'est absolument pas une langue figée, c'est une langue vivante.
Ouais.
Donc, qui dit langue vivante, dit effectivement des mots nouveaux. Hein. Voilà, je sais pas, je pense pas, mais autocollant, pégosoulé, il y a des choses, voilà, des choses qui n'existaient pas.
Smartphone, par exemple, comment on le dit en occitan ?
Téléphonette, téléphonillette. voilà, on a des mots, effectivement, c'est une langue vivante. Donc, elle vit et elle s'actualise tous les jours en la parlant. Et effectivement, c'est pour ça que c'est important de la rendre actuelle, quoi, de la faire vivre. Et pas être toujours tourné vers le passé.
Ouais, et Timothée a raison de dire qu'il se fait des choses extraordinaires, vraiment de grande qualité.
Et c'est vrai que voilà, on a toujours tendance à se dire oui, il y a le côté vraiment patrimoine, enfin ancien. Bon, il est présent, il faut qu'on le conserve, c'est sûr. Mais c'est vrai qu'au niveau artistique, et nous, c'est vraiment là-dedans qu'on est plongé. Et ce qui nous motive à faire ce temps fort, c'est vraiment tous ces artistes qui mélangent, qui s'emparent de la langue, de leur langue, et qui, enfin, et qui en font des choses incroyables. Je pense à des artistes comme Rodin Kaufman, qui est poète, qui est rappeur, en fait, donc qui prépare un album. Donc c'est tout en occitan, mais avec les sons électro hip-hop les plus contemporains, et c'est un mélange incroyable. C'est magnifique, ça emporte vraiment la langue. Là, on programme une poétesse qui s'appelle Manon Alla, qui est lozérienne, qui mélange poésie contemporaine avec l'occitan, entre chant, lecture. Voilà, c'est des artistes qui s'emparent vraiment de leur patrimoine et qui le font vivre, quoi. Et c'est vraiment ça qui nous motive. Rafu, là, qu'on programme aussi, qui est un trio électrique, percussif, mais qui mélange aussi bien l'occitan que plein de cultures méditerranéennes, voire un peu plus loin, créole. Enfin, comme disait David, c'est vraiment des projets qui vivent vraiment et qui sont qui ont de l'énergie, du peps, et qui sont d'une richesse incroyable.
Ouais. Actuelle. Et est-ce que ces artistes-là que vous faites venir dans le cadre du Total Festune, ils arrivent à se produire ailleurs ou finalement ça reste régionalisé
pour eux? Oui, il y a beaucoup il y a des projets. Je pense au projet polyphonique Baru, qui est plutôt de l'Hérault, qu'on avait programmé, alors pas dans le Total Festune, parce qu'avec le Covid, bref, il y a 2 ans. Mais bon, ils se produisent partout. Ils ont joué au Tsiget Festival en Hongrie cet été. Enfin, ils jouent en Bretagne. Il y a des ponts qui se font aussi entre l'Occitan, toute la culture bretonne. Je pense au Chris Brace, qui invite tous les ans des chanteurs occitans. Enfin, vraiment, il y a une émulsion. Et aussi en Europe, en fait, puisqu'il y a beaucoup de cultures européennes, que ce soit en Espagne, enfin... La Catalogne est très proche, donc il y a beaucoup d'artistes de la Franche-Pyrénéenne ou des PO, enfin voilà, c'est perméable, en fait, voilà, ça se croise.
C'est ça qui est important de transmettre aux enfants, hein, tout à fait. On s'enracine, mais pour s'ouvrir aux autres.
Parce que c'est ce que vous disiez tout à l'heure, le fait d'apprendre une autre langue, voilà, c'est une ouverture, c'est une multitude. Moi, je l'ai vu, j'ai vécu en Allemagne, enfin voilà, c'est des ouvertures qui font...
Il faut
communiquer, je pense.
L'an passé, il est un autre festival d'envergure plus départementale, celui-ci, qui a été créé à Marvejols, précisément. Je vous regarde, Roland Chabanon, parce que je crois que votre association Espoir Hoc y a un peu participé. C'était le festival Festoc. Est-ce que je me trompe? Est-ce que vous me regardez avec... Oui, c'est bon. Et donc, pourquoi avoir voulu créer ce festival? C'était quoi le principe, en plus du Total Festune, en fait, qui chaque année revient depuis maintenant plus de 20 ans?
Non, on n'y a pas participé particulièrement, non.
Ouais.
Total Festune, mais pas... Les classes bilingues de la Coustarade, l'école de la Coustarade, y ont beaucoup participé. Et puis les écoles aussi de la Comcom, puisque c'est porté, ce festival,
par la communauté de communes du Gévaudan. Oui, mais l'Espoir Rock, j'avais compris qu'il y avait eu une collaboration, non?
On a juste assuré...
Qui parle bien l'occitan.
Quelques animations.
Ok, bon.
Mais bon, on est tout à fait.
Mais c'est un événement qui est dans le dispositif Total Festume et qui est financé par la région.
Ah, ça s'inscrit dans ce cadre-là aussi.
Voilà, c'est ça.
En fait, les noms changent.
Oui, c'est ça. Il y a plein de noms. Pour brouiller les cerveaux. La chanson fait partie d'un des premiers. Vous l'avez dit, vous enseignez l'occitan via l'oralité. Le programme que vous avez sous les yeux, Joël Rossignol, c'est des petits livrets. Donc là, c'est des histoires. Mais c'est beaucoup chanté aussi. Je pense aussi aux rencontres départementales entre tous les enfants, où il y a beaucoup de chants. Il y a tout ça aussi dans la langue occitane, enfin la culture en fait occitane.
Quand on apprend la langue, on apprend aussi la culture. Hein. Et donc, nous avons un projet pédagogique académique, donc qui est préparé par les conseillers pédagogiques de l'académie, premier degré. Et donc, chaque année, on écrit une petite histoire et ça prend la forme d'un petit livret. Illustré, financé par la région Occitanie. Et avec ce petit livret sur lequel s'appuie l'apprentissage de la langue, il y a effectivement un CD de musique. On mobilise des artistes autour de ce projet. Donc il y a des musiques traditionnelles pour bien, comme on l'a dit, pour que les enfants connaissent ce patrimoine. Il y a aussi des chants qui sont réorchestrés. Donc on demande à des groupes actuels de reprendre certaines musiques, notamment le groupe Achilles qui reprend souvent des musiques traditionnelles et qui les actualise. Et puis il y a des créations spécifiques par rapport au projet, donc des groupes occitans qui prennent notre histoire et qui en font des petites chansons. Et il y a des danses du coup aussi, puisqu'il faut allier la culture, c'est la musique, à la danse aussi, le chant, enfin on allie tout ça.
Ça s'inscrit maintenant, tout ce dispositif, dans l'éducation nationale. Ça a été un chemin un peu compliqué, hein. Donc on l'a dit, en 1951, une première loi réautorisée à inscrire l'enseignement facultatif à l'école des langues régionales. Et en 2021, il y a eu un tournant. Mais ça n'a pas été si facile que ça non plus. Et je crois que David Chambon, vous vouliez dire quelque chose sur cette loi, donc la fameuse loi Molac, non ?
La loi Molac, peut-être qu'on peut expliquer aux auditeurs
qu'elle a amené en plus.
Qu'elle a amené en plus. Ouais. Alors, j'utilise un document qui aide à comprendre cette loi. En 8 points, alors la loi, elle prévoit qu'un enseignement de la langue occitane sera proposé à tous les élèves de la maternelle au lycée. Cette mise en œuvre va être progressive. Et en convention avec les régions, et Joël en a parlé tout à l'heure, donc c'est des conventions qui permettent à ce que les écoles peu à peu et cette offre linguistique. Il y a un point qui a été pour l'instant mis de côté, c'est sur l'enseignement immersif. La loi proposait que cet enseignement immersif soit proposé dans les écoles publiques.
Ça veut dire quoi, enseignement immersif ?
C'est-à-dire que tout l'enseignement se fasse en langue occitane.
C'est ce qui se faisait jusqu'à présent simplement dans les écoles associatives à Calandretta, voilà, qui maintenant, depuis 2021, effectivement, est possible dans l'enseignement public.
Voilà. C'est un peu le changement, en fait, la voie Molac.
Ça n'a pas encore été appliqué, mais ça autorise.
C'est appliqué dans certaines régions. Mmh. Nous, en Occitanie, on ne s'est pas encore mis, mais c'est appliqué. C'est appliqué en Bretagne, c'est appliqué en Corse, c'est appliqué en Alsace, ça commence à se développer.
Voilà, donc il y avait un point pour associer les écoles privées, Calandrette, à cet enseignement. Il y a un point qui montre que l'occitan est un élément patrimonial et qui doit être protégé. Mmh. Donc voilà, ça y est, c'est dit par une loi. Il y a un point cite aussi que l'occitan est intégré au trésor national. Mmh. Il y a même le président Macron qui l'a cité et qui était fier de ce trésor national. Un point qui dit aussi que les pouvoirs publics vont être encouragés par la loi à recourir à l'affichage bilingue occitan-français. Et puis, il y a un point qui est discuté par le Conseil constitutionnel et qui n'est pas acté pour l'instant. Est-ce possible de donner à son enfant un prénom occitan ?
Bon, souvent, il n'y a pas si longtemps, il y avait un petit garçon en Lozère qui avait failli s'appeler Artus,
mais il fallait l'accent aigu sur le U.
Et ça avait été retoqué.
Et pour l'instant, le Conseil constitutionnel refuse ce type d'écrit parce que ça ne correspond pas à l'écrit du français.
Très bien. Roland Chabanon, je vous vois un peu circonspect vis-à-vis de ces textes de loi.
C'est-à-dire que ça, c'est un petit peu comme tous les faits politiques. Hein. C'est que, bon, ça sont des discours, mais en fait, dans la réalité, je ne suis pas sûr. Peut-être, c'est mon avis personnel, que ce soit vraiment mis en pratique à 100%.
Et le fait de dire, par exemple, voilà, on va autoriser les établissements publics à inscrire des textes avec des mots en occitan, ça vous paraît utile ou c'est un peu aussi pareil que des faits d'annonce ?
Non, tout à fait, hein, c'est utile. Hein. Vous savez, plus les cultures s'interpénètrent, hein, plus il nous faut préserver la nôtre. Hein. Ça, c'est évident, de toutes les façons possibles.
Vous avez chacun, vous représentez aussi des associations qui contribuent au développement de l'occitan. Espoir Hoc et Ad Hoc, j'ai remarqué que ça avait été créé dans les années 90. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose à ce moment-là ou c'est un pur effet d'hasard ?
Non, il n'y a rien de spécial.
Est-ce que vous pouvez peut-être nous rappeler quelle était la vocation première à chacun de vos associations ? On commence par vous, Roland Chabanon.
L'association Espoir Hoc, comme son nom l'indique, c'est Espoir Occitan, c'est-à-dire retourner vers l'avenir. Hein. Et c'est pour tout simplement perpétuer la langue, la culture et les traditions régionales.
Vous êtes combien à ce jour dans l'association ?
Alors, on est 30 membres, entre 18 et le plus ancien, c'est moi.
Okay.
Voilà. Mais ça se renouvelle assez bien parce qu'il y a des jeunes qui rejoignent l'association. C'est ça qui est très porteur, vous voyez. Voilà. Alors, notre temps fort, c'est une compère à la Lozère qui se déroule au mois de juillet à Marvejols. Qui fait revivre la Lozère, disons, du siècle dernier, à travers la culture, les traditions, les traditions artisanales, agricoles, culturelles. Voilà.
Très bien. Et vous êtes basé à Marvejol, hein,
on est basé à Marvejol, voilà. Tout à fait.
Okay. Quant à vous, Adoc.
Alors l'Adoc, c'est bien, c'est assez complémentaire. On est moins sur l'organisation d'un événement tel que une compère à la Lauzère. On a une histoire en fait. Hein. C'est parti d'un groupe d'enseignants hein, qui ont trouvé le besoin de répondre à une demande d'accompagnement des enseignants pour l'enseignement de l'occitan. Alors, peu à peu, des choses ont évolué. Il y a parmi les actions de l'ADOC quelque chose qui a marqué, hein, c'est l'organisation de colloques internationaux hein, avec des gens qui venaient même du Québec sur le thème des langues régionales, donc c'était tous les 5 ans. Voilà, donc là en ce moment l'association peine à réorganiser ça et est en train d'être en mutation plus vers un travail de diffusion culturelle et d'accompagnement, mais différent. Les outils changent, les personnes changent, mais malgré tout on est encore dans l'actualité de ces colloques. On a une action de production d'outils pédagogiques qui jusqu'à présent était sous forme d'une revue qui s'appelait Le Signal, qui a été numérisée ensuite, et donc on a une grosse banque d'outils pédagogiques. Après, ça c'est vers les enseignants. Il y a des interventions aussi vers les enfants hein, qui ont eu lieu avec des interventions de notre employé dans les classes. Ça aussi c'est en train de réduire puisqu'elle est employée maintenant par l'Éducation nationale. On a aussi des actions vers un public plus large avec des ateliers théâtre. Il va y avoir des ateliers chorales l'an prochain pour des enfants mandois puisqu'il y a des cursus bilingues à Mende aussi. Il y a la possibilité donc d'accéder à des cours d'occitan, voilà, pour adultes essentiellement. On propose le service d'édition de livres. Et on peut aussi répondre à des demandes d'expertise, des traductions, des animations particulières, des visites, comme on nous a demandé, des visites de Mende en occitan, ce genre de choses. Et puis là, on est aussi tourné vers la diffusion de la culture en organisant un Total Festum au Pont de Montvert. Mmh. Ce Total Festum, il est au Pont de Montvert parce que ce village répond très bien à cette demande. On a des membres là-bas au niveau local qui sont très actifs pour ça. Et du coup, il se fait le 14 et 15 juin cette année. On organise aussi des concerts, comme le dernier concert d'Esta qu'on a organisé cet automne. On a organisé plusieurs concerts de Nadao. Voilà. Et on est prêt à répondre. C'est un peu aussi une veille, cette association, aux attentes du monde qui nous entoure, voilà.
Et donc, vous, on peut vous trouver à Mende.
À Mende, c'est ça. Et oui, à l'espace Jean Jaurès, et puis sur le site de ADOC 48.
Ouais. Vous avez fait le lien, merci, avec le Total Festum, parce que je voulais, avant qu'on finisse, il nous reste 5-10 petites minutes.
On peut même faire le lien, c'est que maintenant, Anna, elle a pris des cours avec nous.
Ah, ben voilà, merci Anna.
Programmée à Grandlieu.
Qui ça, pardon ?
Manon Alla.
Ah oui.
Voilà. Qui collabore aussi avec 48FM, donc voilà, la boucle est faite. Timothée Demoury, 2-3 mots, le Total Festum que vous organisez à Grandlieu, donc c'est en mai, hein, c'est avant le juillet, c'est pas que je privilégie, c'est parce que c'est plus proche, on va dire ça.
Tout à fait, en fait, c'est du 24 au 26 mai, voilà. Je peux peut-être faire un petit programme rapide. Donc on commence, donc on aura une intervention de la chanteuse Lucia Xiarit à l'école de Bel Air Val d'Anse, donc avec une classe autour du chant, sachant qu'il y aura aussi des interventions avec Joël autour du conte en amont. Ensuite, donc le vendredi 24, on a une conférence-concert à l'église de Grandrieu le soir, donc sur les instruments traditionnels. On fait venir Pierre Rouche avec son compagnon. Monsieur Bourri, donc c'est une conférence sur les instruments traditionnels, donc surtout des Pyrénées, mais donc on retrouve tout ce qui est cornemuse, les hautbois, et les violons, etc. Donc c'est un facteur d'instrument qui est aussi bien dans l'archéo-lutherie, puisqu'il fabrique des instruments médiévaux, que des instruments traditionnels comme le hautbois du Couserans, qui est un très 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 bel hautbois. Donc voilà, ça, le samedi, le stage chant occitan pour débutants, ouvert à tous, toute la journée. Et on commence à 17h30 avec une scène ouverte, donc avec les restitutions de l'école, du collectage avec les montagnards, donc sur le patois de Margerine, le stage avec Lucci, et puis c'est ouvert à toutes et tous. Ensuite, apéritif, repas avec les Verts de Marjorie. Cette année, on s'est associé avec trois associations de grands rieux encore pour étoffer voilà, l'événement. Et puis, donc, repas. Et on finira par un bal acoustique avec le duo Bourri Rouge et Raffut Électrique, donc en fin de soirée, donc pour danser plus follement. Et puis, le lendemain, donc, on a Manon Alla qui présentera sa création en cours qui s'appelle le Blau Sanguina. Donc c'est des poèmes de troubadours enfin contemporains en français et en occitan et du chant également et en costume, donc ça doit être très chouette. Et on finira par la balade botanique puisque c'est aussi une des prérogatives du Total Festum, c'est aussi le
parce qu'il y a plusieurs petits critères
à cocher. Mais bon, c'est la deuxième fois l'année dernière, ça a très bien fonctionné. C'était vraiment génial sur les plantes comestibles. Et
combien de personnes vous avez
sur cette balade, on a eu plus de 35.
Et sur l'ensemble du festival, comme là, ça fait
alors
4
nous,
ans.
Alors nous, on est sur des petites jauges, on est sur une centaine de personnes okay. Ouais, sur la soirée.
Ouais. Okay, voilà. Bien. Voilà pour le programme. On peut retrouver tout ça sur le site en détail.
Oui, sur les réseaux sociaux,
Facebook
sociaux
principalement.
Et Insta.
Voilà, qui est dit. Dernière question qui s'adresse à tous pour vous, là, puisque l'objet de l'émission, c'est un peu ça aussi, continuer à maintenir en fait, la langue occitane. Qu'est-ce qui pourrait être encore développé ou qu'est-ce qui manquerait pour que ce soit encore plus développé dans le département? On va peut-être se limiter au niveau local.
Je pense que des efforts sont bien faits. Hein. Ouais. En tout cas, la politique régionale avec Parler une langue bibe porte tout ça. Parce qu'effectivement, pour que les enfants apprennent la langue, se l'emparent et la parlent au quotidien, il faut que ce soit une langue qui soit présente dans la société. Ouais. Donc tout ce côté festival et tout ce qui est mis en place pour que l'occitan soit plus visible et plus présent dans la société, tout ça va dans le bon sens pour que...
Oui, c'est vrai que moi je parle pour les artistes, en tout cas musicaux et enfin contemporains. Il y a un gros soutien de la région pour là-dessus, hein, sur ces artistes qui de langue occitane ou catalane. Et ouais, c'est chouette.
Monsieur Chabanon, est-ce que vous avez quelque chose qui vous vient en tête ou pas?
Non, peut-être. Moi, j'avais envie. Je ne sais pas si j'aurai la force ou le temps de le faire. C'est de passer dans les campagnes et enregistrer les derniers vrais locuteurs. Parce que c'est passionnant quand on les écoute.
Oui. C'est un peu ce que vous avez fait avec...
Bah oui, c'est ce qu'on entame, là. Donc, ouais.
J'espère
que
ce ne sont pas les derniers locuteurs.
Ah bah. Non, mais c'est vrai qu'on a...
Bah, la génération est en cours.
C'est vrai qu'on a... Ça disparaît, entre guillemets, vite. Enfin, ouais. Mm. Parce que, comme vous dites, toute la génération un peu des anciens... était un peu interdit, donc ils le comprennent, mais ils ne le parlent pas.
Et il y a eu une série, je vais finir là-dessus. Est-ce que vous l'avez vue, cette fameuse série, la première qui est sortie en occitan? Oui.
La série A.
Voilà. Et alors, ça vous paraissait bien peut mieux faire?
Ah si, moi je trouve ça
si, vous avez bien aimé.
Moi j'ai bien aimé, mais c'est particulier. Mais j'ai bien
et donc
aimé.
Ça aussi, ça contribue voilà, dans les médias.
Toute la production, bien sûr.
Très bien. Eh bien écoutez, je vous propose qu'on termine en chanson. Grâce à vous, Joël Rossignol. Alors, je vais vous laisser lire le titre, parce que alors, moi, je ne suis pas du tout bilingue. Donc, c'est celle-ci.
Dimon Nort. Voilà, c'est une chanson qui a été créée dans le cadre du projet pédagogique académique par un groupe de musique qui s'appelle Humpty Dumpty.
Voilà. Et bien, je vous dis, avant qu'on se quitte, merci encore à vous d'être venus jusqu'ici.
Merci
à vous.
L'ensalade es la fruta del amor, me pude esperar en el manjaray tojo. Lang de lang de lang, lang, lang de lang de lang.
De caqui, de grenado, de pumo, de perro, de curreña, qui veire di monjari. Di monota y tan de fruta, de insecte, de feña, qui veire di monjari. De caqui, de grenado, de pumo, de perro, de curreña, qui veire di monjari. Di monota y tan de
frutti, un insecte e de fegna chi veire di mon jardin. Veni me io visita mon ustau, veni me io rebalaren de for. Li semenaren paike de naturau, nous y ventaren l'umai puli de cor. La vida si passe trobe son camin, soute l'épée des parents des amis. Fournigue nigue nos et niglos et d'abou, comme dit le seu et au seu zébourdou. Des kakis, des grenades, des poumons, des perros, des couvergnes, qui veillent du monde jardin. Du monde taïtan, des fruits, des insectes, des feignes, qui veillent du monde jardin. Des kakis, des grenades, des poumons, des perros, des couvergnes, qui veillent du monde jardin. Du monde taïtan, des fruits, des insectes, des feignes, qui veillent du monde jardin. Revira la terre, planta paia azaga. Regaccia monta le liaume despelu amac. L'hiver passe des nargues coule union rabaccio. L'estiu merinjana tu mati pebrou. Ses le valu mer le vol vol la blavetto. Ses le valu cio vol rata pignata. Le cacalau le musaragna un besun d'abri. Ana regni la barta spiritueli de romanic.
Vodon se gandidi in li carairou che sen vando custa de la col updurante. À travers les oubliers, carga des belles olives vertes.
Des kakis, des grenades, des poumons, des perros, des couvergnes, qui veillent du monde jardin. Du monde taïtan, des fruits, des insectes, des feignes, qui veillent du monde jardin. Des kakis, des grenades, des poumons, des perros, des couvergnes, qui veillent du monde jardin. Du monde taïtan, des fruits, des insectes, des feignes, qui veillent du monde jardin.